cour d'éthique par le père Philippe à Saint-Jodard, le 14 novembre 89.
Deux petites questions. Vous nous dites souvent que tel acte, par exemple écrire, est du fait chéré, jusque nouvel ordre, et que tel autre acte, par exemple être attentif au cours, est de l'adjuré. Mais est-ce que l'agir n'enveloppe-t-il pas tous mes actes volontaires et donc mes actes volontaires dans l'ordre artistique, politique et de recherche de la vérité, puisque je n'ai qu'une seule vie? Puis-je avoir des activités, par exemple, au niveau artistique, qui soit totalement indépendant de mon intention de vie morale? Sinon, est-ce que tout acte volontaire ne relève pas ultimement de l'adjuré? Bon, voyez, quand j'analyse le fait, quand je parle du fait chéré et de l'adjuré, j'analyse deux activités différentes quant à leur finalité, quant à leur structure. Autre chose est de prendre des notes. Autre chose est d'être attentif. Deux activités différentes. Autre chose, sculpter la pierre et aimer mon voisin et prier. Deux actes différents. Bon, voilà la diversité. Qu'est-ce qui fait l'unité de notre vie? C'est la finalité. À des niveaux différents du reste. Si ma finalité est un amour d'amitié, je fais tout pour mon ami. Si ma finalité est contempler Dieu, je fais tout pour contempler Dieu. Alors là, à ce moment-là, j'ai quelque chose qui unifie toute ma vie. Il est très vrai que l'unification de ma vie vient d'une fin que j'ai choisie. Parmi les fins que je choisis, je peux dire la philia, la contemplation, la gloire, par ça. Donc tout acte volontaire, c'est le propre du volontaire, c'est de regarder ses biens comme fin. Et je pourrais dire, certains sont des fins authentiques, d'autres sont des fins fallacieuses. Fins fallacieuses en rouge. C'est même près du verre. Et la contemplation. Mais ça, j'ai porté un jugement de ça. Et c'est ma philosophie éthique qui porte ce jugement. Enfin, avant de porter ce jugement, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il y a des actes dont la structure est différente. Il y a des actes qui regardent le fait chéré. Ah, je pourrais mettre l'œuvre aussi, l'œuvre artistique. Je m'applique à faire une œuvre. Donc cela relève de ma volonté. Puisque ça relève de ma volonté, je fais de mon œuvre quelque chose qui finalise ma vie. Mais l'œuvre elle-même relève de telle activité qui est du fait chéré. ce fatuité est enveloppé d'une volonté d'application, c'est bien évident. Donc, c'est vrai de dire que l'adjuré enveloppe tout. Mais faisons attention, parce que je peux finaliser ma vie par du fatuité. À ce moment-là, le fatuité commande une intention. Devient, d'une certaine manière, éthique. Je peux finaliser ma vie par la richesse. Je finalise ma vie par cela. Alors, je suis tout à fait d'accord que l'acte volontaire, d'une certaine manière, se donne à moi-même telle ou telle finalité et enveloppe toute cette finalité. Ce que j'étudie, au point de vue philosophique, j'analyse, vous voyez, et je vois que tel acte en lui-même est du fatuité. Prendre des notes, c'est du fatuité. Faire la cuisine, c'est du fatuité. La goûter, ce n'est plus du fatuité. Mais celui qui fait la cuisine en goûtant plus la cuisine qu'en la réalisant, celui-là, vous voyez, il y a une dose de fatuité et une dose goûtée. C'est du quoi? Vous allez dire, c'est de l'esthétisme. Oui, parce que je goûte pour mieux faire, normalement, si je suis intelligent et que je veux faire vraiment la cuisine. Il manque de sel, il faut l'avoir goûté. Ça ne se voit pas. Faire de la bonne cuisine, il faut la goûter. Tout bon cuisinier le sait. C'est pour ça que quand il arrive l'heure du repas, il n'a plus faim. Il y a l'odeur. Il y a l'odeur de la cuisine et puis le fait qu'il l'a goûté. Plus ou moins, mais il l'a goûté. Ça apaise son désir. Alors voyez, ce qu'on pose comme question, c'est il y a un certain volontaire du fatuité. Je m'applique à bien faire. Donc il y a un certain volontaire. Le fatuité implique une certaine volonté. Mais cette volonté est dépassée par la recherche de l'œuvre. Dans l'acte, l'adjuré pur, il peut y avoir un adjuré pur. Vous voyez, c'est toute la question là qui est posée. Qui est une très belle question que j'aime du reste poser, parce que c'est une question qui est très intéressante. Peut-il dans notre vie y avoir du fatuité pur? Peut-il dans notre vie avoir de l'adjuré pur? La plupart du temps, il y a une mixture. Il y a du fatuité plus de l'adjuré. Presque toujours. Mais on peut se poser la question, peut-il y avoir du fatuité pur? Ça arrive. Des gens qui sont complètement amorales, qui ne savent pas ce que c'est. Alors ils se précipitent, ils font quelque chose. Après ils font n'importe quoi d'autre. Ça existe. Je crois que ce serait difficile de dire que ça n'existe pas du tout. Il y a une application volontaire. Mais on ne se pense pas du tout si c'est mon bien ou pas mon bien. Je le fais. Ça m'intéresse. Après, je fais autre chose. Oui. On est devant une espèce d'être amoral. Je crois qu'aujourd'hui, ça peut exister. C'est rare, mais ça peut exister. C'est une privation. Parce que normalement, tout acte d'humain devrait être de la durée. Il peut y avoir de la durée pure. La durée pure, c'est l'intention. C'est le choix. L'imperium me met dans l'activité dehors. Et donc là, tout de suite, dès qu'il y a usage de mes facultés, il y aura du fatuité. Vous voyez ? Il peut y avoir de la durée pure. Tandis que du fatuité pur, c'est un peu monstrueux. humainement parlant, le feu de chérie doit toujours être enveloppé de la durée. Parce que je réalise une œuvre pour ma gloire, pour la gloire de Dieu, pour mon ami, pour la vendre. Mais pour. Donc, normalement, le feu de chérie est toujours en vue de la durée. Toujours. Est-ce que l'agir moral n'enveloppe pas tous mes actes volontaires? Normalement, oui. Et donc mes actes volontaires, dans l'ordre artistique, politique ou de recherche de vérité, puisque je n'ai qu'une seule vie, bon, ça enveloppe tous ces actes-là. En vue de, je fais de la politique pour glorifier Dieu, puisque je suis du parti catholique. Donc je fais de la politique pour glorifier Dieu. Puis je peux faire de la politique pour gagner de l'argent. Je peux faire de la politique pour ma gloire. Ce qui arrive la plupart du temps. Hélas. Je peux faire de la politique pour le bien des hommes. Et pour le bien de Dieu. Puis-je avoir des activités, par exemple, au niveau artistique, qui soient totalement indépendantes de mon intention de vie morale? Je crois que ça peut exister. Dans un monde comme le nôtre, qui est très peu moral, oui, dont le moral, le point de vue moral est un peu rejeté. Alors on peut voir ça. On peut voir des êtres qui ne vivent que pour la réalisation d'une œuvre. Le point de vue moral est complètement absent. Je crois que ça peut se faire aujourd'hui. C'est pas normal. Ce que je peux dire, c'est pas normal. Normalement, tout le facture est enveloppé de la durée. Sinon, est-ce que tout acte volontaire ne relève pas de la durée? Ultimement, la durée. C'est vrai. C'est suffisamment clair. On analyse le facture et la durée dans la vie concrète. Au point de vue de la finalité, normalement, tout ça est fait en vue d'une fin. C'est pour ça que je n'ai qu'une vie. J'agis pour mon ami, j'agis pour Dieu. J'agis pour ma gloire. J'agis pour m'enrichir. Vous voyez ? Et quelquefois, il y a plusieurs finalités. Il y a le secteur « je m'enrichis ». Il y a le secteur « religieux ». Il y a le secteur « amical ». Il y a le secteur politique. Et j'ai 5 finalités dans ma vie. Des tiroirs. Tendeur pour ça, tendeur pour ça, tendeur. Et ça existe, ça. Ça existe. Dans certaines attitudes très, très nettes au point de vue moral, au point de vue du facturé. Il y a des gens qui sont dans l'activité économique entièrement pendant tendeur. À ce moment-là, ils sont absolument en dehors de tout le point de vue d'amitié, de tout le point de vue moral. Les affaires, c'est le business, c'est tout. L'efficacité, et bien vie, c'est tout. Je me souviens que la première fois que j'étais en Amérique, aux États-Unis, on m'avait dit, surtout ne le dérangez pas pendant 6 heures d'activité, où il est au bureau, il vous renverra promener. Même si vous dites que vous venez de la part de sa vieille tante qui habite Florence, ça n'a aucune importance. Business. Si vous l'interrogez en dehors, oh, il sera charmant, merveilleux, il aura tout le temps pour vous. Oui, il y a des cloisons. Quelquefois, on est obligé. Quelquefois, on est obligé de faire des cloisons. Laissez-moi travailler. C'est mon travail. Le père Sertilange disait ça, lui. Donc, dominicain, le père Sertilange disait ça. 1935, et disait, le matin, on ne me dérange pas, je travaille intellectuellement. On peut mourir, ça n'a pas d'importance, je travaille intellectuellement. Il bouclait tout. Ça peut se faire, ça peut se comprendre. réaliser quelque chose, quelquefois on est obligé de s'absenter pendant 8 jours pour réaliser quelque chose. Oui, mais c'est momentané, mais quand là c'était automatique. Et il disait, en souriant, pour le Père Certilange, il ne faut pas mourir le matin. Oui, alors c'est les cloisonnements. On peut faire des cloisonnements. Alors à ce moment-là, on a la vie d'affaires, la vie d'amitié, la vie. Oui, c'est ça. Et en Amérique, les affaires vous prennent en temps. Ça peut arriver, ça. On peut très bien comprendre ça. Et en Europe aujourd'hui aussi. Alors, il faut comprendre que la durée, elle va durer. Se fait du côté de l'analyse, du côté de la vie. Les deux sont mêlés. Mais il y a des artistes qui sont comme ça aussi. Farouche. Rouault, on ne pouvait pas le déranger quand il travaillait, quand il peignait. Son atelier était fermé, c'est tout. Il travaillait. Alors, pourquoi le dilettantisme est lié à l'imaginaire? Parce qu'il Le dilettantisme, il vogue dans l'imaginaire. Qu'est-ce que c'est que le dilettantisme? Le dilettantisme, c'est confusion entre le moral et le facere. Ce n'est pas être attelé à réaliser une œuvre, mais c'est aimer. De bavarder sur tout ce qu'on veut. Vous voyez? De se détendre. La première occasion venue, on n'a plus une détermination nette de ce qu'on doit faire. On est pris par le conditionnement. Et le conditionnement s'empare de tout dans notre vie. Or, le conditionnement est commandé par l'imaginaire. Il relève surtout de l'imaginaire. Un homme très imaginatif ou une femme très imaginaire a beaucoup de peine d'être vraiment finalisé. Elle est prise toujours par l'imaginaire. Donc ça, c'est tout simplement parce que qu'est-ce que c'est que le dilettantisme? Faites la coupe du dilettantisme, vous verrez tout de suite l'imaginaire. C'est juste l'inverse de celui qui est finalisé. C'est juste l'inverse de ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une coupe. C'est juste la contradiction, l'opposition. Alors, nous étions restés la dernière fois à voir la naissance des vertus, je crois, n'est-ce pas? Et comment, à cause de l'imaginaire, il est nécessaire d'acquérir des vertus. La vertu de prudence, la vertu de justice, la vertu de tempérance, la vertu de force. Et ces vertus sont les quatre vertus cardinales que, je crois, tout philosophe honnête accepte. Je crois. J'ai rarement vu des philosophes qui critiquaient ces vertus. Ils n'en parlent peut-être pas, mais ne les critiquent pas. Tellement c'est ancré dans la nature humaine. Alors, je m'étais posé la question, est-ce que l'amitié implique une vertu? Aristote se pose la question. Mais il n'y répond pas de façon très... Il y répond, mais... La vertu regardant, tu vois, l'amour d'amitié regardant un ami. L'ami n'est jamais un moyen. L'ami est une fin. Donc le choix amical relève de quelque chose de plus. Et c'est pour ça qu'Aristote dira que c'est le fruit des vertus. Le fruit. Et on comprend très bien. La surabondance des vertus. Quelque chose en plus. Les vertus sont nécessaires pour l'amour d'amitié. Parce que si vous avez en vous un égocentrisme trop grand, comment voulez-vous pouvoir aimer un ami? C'est devenu naturel pour vous. Quand on vous présente des petits gâteaux, vous prenez le plus gros. C'est naturel. Vous faites ça naturellement. Même si l'ami est à côté. Alors, ça blesse l'ami. Votre gourmandise est devenue telle qu'il n'y a plus que ça qui vous intéresse. Mais il manque de tempérance. Je peux dire ça pour la bouteille aussi. Si vous manquez de justice, vous tuez complètement l'amour d'amitié. L'amour d'amitié implique un fondement de respect à l'égard de l'ami. S'il n'y a plus de justice, il n'y a plus de respect. Je ne respecte pas les droits de l'autre. S'il manque de force, je ne peux pas compter sur l'ami. Alors je dois pouvoir compter sur l'ami. Alors si je sais qu'il tremblote dès qu'il y a immédiatement un gros chien à l'horizon, un voleur à l'horizon, je ne peux pas compter dessus. Et donc, on voit bien, et le point de vue, la prudence, c'est sûr. La prudence, c'est quand même une lucidité dans l'ordre pratique. Si mon ami n'a aucune intelligence pratique, ne sait absolument pas organiser sa journée, comment voulez-vous vivre en commun? C'est impossible. Comment voulez-vous qu'il y ait le minimum de vie commune? C'est impossible. Or, l'amour d'amitié réclame la vie commune. Donc, je vois bien, et je crois que ça c'est facile à comprendre, que l'amour d'amitié réclame les vertus cardinales. Il faut donc se réaliser en moi, développer ces vertus cardinales. Je crois, l'année dernière, avoir parlé de toutes ces vertus cardinales. Ceux qui ont assisté l'année dernière au cours, hein, je le reprends très vite pour que tout le monde comprenne un peu, mais on sait tout. Regardez un bon dictionnaire et vous donnez des définitions des vertus cardinales. Qu'est-ce que c'est que la tempérance? La tempérance, c'est cette intelligence pratique qui arrive à organiser ma vie en vue de réaliser le mieux possible la fin que j'ai choisie. La contemplation ou l'amour d'amitié. Bon, ici, on ne parle encore que d'amour d'amitié. Et donc, le point de vue de la prudence viendra fortifier, purifier mon intelligence pratique en vue de mon intention de vie. L'intention de vue sera beaucoup plus nette grâce à la prudence. Mon information pour les moyens en vue de réaliser une union laisse juste mesure pour chacun d'entre nous. Ça, ça fait partie de la prudence. En vue d'acquérir la fin. Comme les conseils, je pourrais conseiller des quantités de gens, tous mes amis. Alors là aussi, il peut y avoir exagération. Scrupule d'exagération dans l'ordre des conseils. Il faut choisir tel ou tel. Et le conseil va jouer au niveau du choix. Rectification du choix. Que le choix ne soit pas uniquement en fonction de mes caprices, en fonction de ma convenance, mais que le choix soit choisi en fonction de la fin que je recherche. respecter, mais c'est un fait. Il a ce droit. Le religieux a le droit de mourir dans son couvent. Le religieux de profession perpétuelle. Le novice, c'est différent, n'est-ce pas? C'est différent, le novice. Parce qu'il n'est pas prévu qu'il mourra dans son noviciat. Et c'est vrai, au sens strict, il n'y a pas encore d'alliance établie. Mais quelqu'un, un prophète saint ou un prophète perpétuel, il a le droit de mourir dans son couvent. Mais la question se pose, hein, parce qu'aujourd'hui, on envoie tout de suite à l'hôpital. Tout de suite. À l'hôpital. Et une fois qu'on est à l'hôpital, l'hôpital garde. Est-ce qu'on a le droit de dire « Non, moi, je veux mourir dans mon couvent. » Et est-ce qu'à ce moment-là, le prieur est obligé d'ouvrir les portes? Même si c'est la gale. Si c'est un novice, on consulte le chapitre. Êtes-vous d'accord de recevoir ce novice qui n'a aucun droit, il est un noviciat, de venir mourir chez lui, puisque son désir c'est d'être pleinement dans la communauté. Et qu'est-ce que c'est qu'un droit? Réfléchissez, c'est pas commun du tout à penser. Le droit présuppose le point de vue d'une nature finalisée. C'est pour ça que quand il n'y a plus de nature finalisée, le droit devient subjectif. Les juristes savent très bien ça. Il y a un droit objectif et un droit subjectif. Le droit objectif relève d'une nature finalisée et qui regarde les moyens qui sont nécessaires à atteindre cette fin. chasteté, vertu annexe à la tempérance. Regarde l'appétit à l'égard de la génération, à l'égard de l'union sexuelle. Alors là encore, la vertu de chasteté consiste à réfréner, dépasser, assumer cet appétit pour rester conforme aux exigences de ma prudence, de ma finalité. Et la force consiste à tenir bon en face de dangers immédiats, péril de mort. C'est à l'égard du péril de mort. L'homme fort peut envisager un péril de mort imminent. Tandis qu'au contraire, un homme faible n'envisage pas ce péril de mort imminent. Vous avez bien compris. Ces choses-là, c'est suffisant, je crois que c'est pas la peine d'insister plus. On l'avait vu, mais s'il y a des questions, il faut les poser tout de suite, puisque on va dépasser ça après. Oui.
Est-ce que en éthique humaine, dans une éthique purement humaine, est-ce que la mort n'est pas quelque chose qui est plus que la force?
On est en éthique purement humaine, hein, ici. J'essaie de rester dans l'éthique humaine. Envisager la mort comme elle doit être envisagée même.